Cinquième séquence pour comprendre et débattre sur le thème de la mondialisation, une séquence proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, cinquième séquence sur ce thème. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être brièvement ce qui a été dit lors de la séquence précédente ?
Oui, la dernière séquence, on était parti entre autres du conflit de la SLCM ou des transports en commun à Marseille, on s'est aperçu qu'il y avait de logiques qui s'affrontaient, de manières de voir la société qui s'affrontaient à l'intérieur de ces conflits.
Donc aujourd'hui, on va essayer de présenter plus en profondeur ces deux, voire trois logiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous les présenter, Paul Masson ?
On va prendre la notion. Dans une société, il y a des besoins de services qui se font jour. Et on va essayer de regarder la manière de répondre à ce besoin de service à travers deux modèles qui se sont succédés un petit peu dans le temps. Le modèle du service public tel qu'il est apparu après-guerre en Europe et la vision de l'Organisation mondiale du commerce, de la réponse aux besoins de service.
Donc première logique que vous avez choisi de traiter, c'est cette notion de service public entre guillemets à la française.
Alors à la fois on peut parler de service public à la française parce que nos services publics sont nés directement du programme du Conseil national de la Résistance et là c'était quelque chose qui s'est développé en France. En même temps, au niveau de l'Europe, on peut dire qu'après-guerre, il y a eu sur l'ensemble de l'Europe, en prenant des formes différentes, une approche un petit peu semblable de la manière de répondre aux services à l'échelle de l'Europe. Le programme du Conseil national de la Résistance annonce son approche du monde. Je cite « Une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. » C'est-à-dire que dès le départ, on dit « ce qui va nous guider » c'est l'intérêt général. Et la notion de service public dans ce cadre-là est pensée en référence à cet intérêt général qui est prioritaire sur les intérêts particuliers. Et l'ensemble du programme de la Résistance va développer ça. Si on veut avoir une économie rationnelle qui réponde aux besoins d'intérêt général, on va avoir nationalisation des grands moyens de production. La production, il faut qu'elle soit sous le contrôle de la nation. C'est à cette époque-là qu'on va nationaliser les services publics, la SNCF, la SNCM, la Poste, EDF, GDF, le charbonnage, mais aussi les banques, parce que les banques, on en a besoin pour déterminer les investissements. C'est-à-dire que dans cette logique-là, on se dit qu'il y a nécessité que cet intérêt général soit pris en compte. On va avoir dans cette cohérence-là la mise en place du plan. C'est-à-dire que les choix économiques, il y a nécessité qu'ils soient organisés. Et c'est dans ce cadre-là, si on veut avoir un intérêt général, que se met en place le plan complet de sécurité sociale avec la vision de la sécurité sociale visant, je cite, « à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans le cas où ils sont incapables de se procurer par le travail ». C'est-à-dire que ce qui est au centre, ça va être les citoyens. Pour mettre en œuvre cette protection sociale, qu'est-ce qui est proposé ? Avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Qui va décider pour gérer ? Comment va se faire la gestion de ces services de santé? Eh bien, ça va être par les intéressés. Et c'est la mise en place de la sécurité sociale organisée avec les organisations syndicales et les organisations patronales et l'État. L'État étant garant de l'intérêt général qui va superviser ça. Vous repérez bien la logique qui se dégage de tout ça. Pour situer cette logique, elle apparaît à un moment donné de l'histoire, après-guerre, sous l'effet conjugué de plusieurs forces. Après-guerre, la première force qui a pris le pouvoir, c'était les forces qui sont nées de la résistance. Et dans la résistance, il y avait l'idée qu'on n'a pas libéré le pays pour en faire n'importe quoi. On a un projet pour le pays. Sous l'effet aussi des luttes syndicales depuis un siècle. En 1945, ça fait plus d'un siècle que les syndicats sont forts. Sous l'effet aussi que le grand patronat avait passé des compromissions avec l'Allemagne nazie et qu'il était dans un mauvais rapport de force. Hein? Et puis, quelque chose qui était sous-jacent aussi à cette époque-là, il y avait de la part de beaucoup la peur du communisme. Si la société est trop injuste, les ouvriers vont se révolter et le capitalisme va disparaître. Donc on comprend bien comment il y a une logique qui s'est mise en place et qui a organisé la société en France et en Europe. On a des choses semblables qui vont se passer en Belgique, en Allemagne. Les formes vont être différentes d'un pays à l'autre de l'Europe. Mais dans tous ces pays-là, il va y avoir un modèle social qui va se dégager, disant on admet que ce sera le capitalisme qui va permettre la création de valeur, mais pour ce qui est de la répartition de la valeur, il doit y avoir une répartition juste entre les détenteurs du capital et ceux qui ont travaillé, parce que c'est ceux qui travaillent qui produisent la valeur. Voilà pour ce qui est de la logique de service public.
Donc deuxième logique que vous nous présentez, hein, donc bien en contradiction avec cette logique selon vous, donc c'est la logique de l'OMC, Organisation Mondiale du Commerce.
À cette logique-là, c'est progressivement imposer, c'est pas le bon mot, substituer une autre logique qui est la vision qu'a l'Organisation Mondiale du Commerce, de la vision des services. Et cette vision de l'OMC, on va la trouver dans les accords de l'AGCS. Vous avez entendu peut-être le sigle, Accord Général du Commerce des Services. Alors, quelle est la vision du monde et quelle est la vision des services? On peut dire que, à la base, les services sont des marchandises comme les autres. La santé, l'eau, la communication, c'est des marchandises. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir tel type d'émission de radio ou tel autre? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir... Ça va être le marché qui va le déterminer. C'est la loi des marchandises. C'est le patron d'AXA qui, en 87, dit « Donnez-nous la santé. Laissez-nous gérer la santé. Chacun se soignera comme il voudra et décidera de la valeur qu'il veut mettre pour soutenir sa santé. » Quand il y aura une offre de santé insuffisante, la valeur de la santé va augmenter et les gens accepteront de mettre plus s'ils tiennent à leur santé. Cette vision de service comme étant une marchandise, elle va être organisée à l'échelle du monde dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Je vous cite deux auteurs qui disent, le directeur de la division des services de l'OMC en 87 qui nous dit: l'accord général sur le commerce des services va accélérer le processus de libéralisation et le rendra irréversible. L'objectif, c'est de faire en sorte que les services passent dans le domaine du marché. Ou M. Servoz, qui négociait pour l'Union européenne sur les services, qui dit « Obliger à terme les États à admettre sur leur territoire tous les fournisseurs de services » dans tous les domaines. Vous voyez qu'on est très loin dans l'option de faisons en sorte sur un territoire que tous les citoyens puissent avoir une réponse à leur santé. La vision, c'est faisons en sorte que sur le territoire, dans le domaine de la santé, tout le monde qui a des choses à fournir puisse le mettre sur le marché et que chacun se serve en fonction de ce qu'il veut.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'intérêt général et d'intérêt particulier. Vous disiez que dans la logique du service public, les intérêts particuliers étaient subordonnés aux intérêts à l'intérêt général. Alors qu'est-ce qu'il en est de cette logique que vous décrivez comme la logique de l'OMC?
Alors dans la logique de l'OMC, la vision est relativement différente puisqu'on dit ce qui sera garant de l'intérêt général, c'est la mise en concurrence des intérêts particuliers. Laissons les intérêts particuliers se développer et il s'en dégagera un intérêt général. C'est un dogme du libéralisme. Et dans ce domaine-là, ce qui va être demandé à l'État, c'est pas d'assurer la cohérence, c'est pas d'assurer la justice de tous les citoyens, mais ce qui va être demandé à l'État, les États sont chargés d'organiser le marché. C'est la fonction qui va être demandée à l'État. Ce qui rejoint la phrase « obliger à terme les États à admettre sur leur territoire tous les fournisseurs de services dans tous les domaines ». Hein, c'est le négociateur de l'Union européenne pour les services, un Français, qui dit ça. La manière dont on va penser la gestion des services, on avait vu la gestion des services dans le cadre des services publics, c'était assurée par les intéressés. Tandis qu'ici, la gestion, elle va être assurée par les entreprises sous le contrôle de leurs actionnaires. Qu'est-ce qui va faire qu'on va privilégier tel ou tel service? C'est que cet service-là va rapporter des revenus à ceux qui sont propriétaires des actions de l'entreprise. Voilà deux logiques qui s'affrontent à l'échelle du monde.
L'année dernière, au moment du référendum, dans le traité pour une constitution pour l'Europe, il était question de services d'intérêt économique général. Alors j'ai envie de vous demander dans quelle case on peut mettre ce SIEG, plutôt dans la case des services publics ou de la logique de l'OMC?
Ça sera l'objet de la prochaine émission qui essayera de regarder qu'est-ce que sont les services d'intérêt économique général.
Donc la prochaine émission pour comprendre et débattre, ça sera mardi prochain dans Info 30 à 7h30, midi 30 et 18h30. Paul Masson, je vous remercie. Et puis je rappelle à vous, auditeurs, que vous pouvez poser vos questions, donc soit par téléphone 03 21 50 99 99. N'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur ou par email pfm@nornet.fr.